Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneau.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 8h.
Des transferts de la région parisienne vers d'autres régions comme l'Ouest peuvent probablement ensemencer en quelque sorte.
Alors que l'épidémie semble marquer le pas en France, les vacances scolaires risquent-elles de faire circuler le virus? Où en est-on et quels sont les scénarios? On fera un point complet dès le début de ce journal.
Ce qui inquiète notamment, ce sont les variants. En Moselle, la situation est particulièrement préoccupante. Les autorités réfléchissent à avancer les vacances scolaires.
Elles sont obligées de porter toute la journée des t-shirts au slogan sexiste. Des employés d'une chaîne de restauration manifesteront cet après-midi à Saint-Étienne.
Et puis chacune de ces sorties est désormais un événement. Le champion du monde de cyclisme Julien Alaphilippe a repris la compétition cette semaine.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a 15 jours, le reconfinement semblait imminent. Aujourd'hui, l'exécutif ne l'évoque plus. Certains signaux sont en effet rassurants.
Oui, comme le nombre de nouveaux cas quotidiens aux alentours des 20 000. Ça ne flambe pas. Pas d'augmentation non plus des hospitalisations. On va faire le point ce matin sur l'état de cette épidémie.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste santé. Aujourd'hui, il y a de quoi se rassurer.
Oui, ce qui rassure, c'est que le R effectif, donc le nombre de personnes contaminées par un seul cas positif, reste autour de 1. Cela veut dire que les gestes barrières, le télétravail, le couvre-feu suffisent pour le moment à contrôler la situation. Ce qui est moins rassurant, c'est que la pression hospitalière est forte, même si elle est stable, que les variants gagnent du terrain. On est à 20-25% des contaminations dues aux variants britanniques. On est à 4-5% des contaminations dues aux variants sud-africains et brésiliens. Par ailleurs, il y a aussi des situations très contrastées sur le territoire. L'incidence de l'épidémie baisse dans une cinquantaine de départements, mais elle continue d'augmenter dans une vingtaine d'autres.
Anne, est-ce qu'il faut craindre l'impact des vacances scolaires ?
Alors à la Toussaint, les vacances ont plutôt eu tendance à freiner l'épidémie, mais cette fois-ci, avec les variants et des vacances étalées sur 3 zones, il est plus compliqué de se projeter, estime le professeur Philippe Amouyel. Il est médecin de santé publique au CHU de Lille.
Certains mouvements qui sont autour des écoles diminuent, donc ça c'est plutôt en faveur d'une diminution de la circulation. Mais qu'en revanche, les gens peuvent changer de région, et parmi les régions à haute incidence, on a la région parisienne. Et des transferts de la région parisienne vers d'autres régions comme l'Ouest peuvent probablement ensemencer en quelque sorte, avec un gros problème actuellement qui est l'arrivée de nouveaux variants.
Alors justement Anne, ces variants, est-ce qu'ils peuvent influencer la suite de l'épidémie ?
Alors d'après certaines projections, le variant britannique risque de prendre le dessus dans la première quinzaine de mars. Alors en attendant les bénéfices de la vaccination, tout le pari maintenant, c'est de garder le contrôle sur les variants sud-africains et brésiliens, d'où l'importance renforcée durant ces vacances du port du masque, du lavage des mains et de l'aération.
Ouais, surtout ne pas oublier tous ces gestes barrières qui nous sauvent. Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, et notez justement que toutes ces questions, l'état de l'épidémie, les mesures à prendre et les variants bien sûr, Arnaud Fontanet, l'épidémiologiste, est notre invité juste après ce journal à 8h15.
Anne Le Gall évoquait les variants. Ils inquiètent particulièrement en Moselle. On y détecte une centaine de cas chaque jour. Les élus hier ont demandé au ministre de la Santé d'avancer les vacances scolaires, de les faire débuter immédiatement. L'exécutif se laisse le temps de la réflexion. Écoutez le proviseur de ce lycée de Metz, Arnaud Brossard.
On est prêt quelle que soit la situation. C'est-à-dire que comme tous mes collègues et tous les établissements, on a connu le premier confinement de mars qui a été redoutable et très long. On a connu le second confinement d'octobre et novembre. Nos équipes sont formées au numérique, ont déjà eu l'expérience de mener à bien l'enseignement à distance. Alors on sait que c'est un mode qui est dégradé, mais très honnêtement, on a à notre disposition des outils qui nous permettent en tous les cas de mettre en place la continuité pédagogique. On s'adaptera quelle que soit la décision prise.
Ah. Arnaud Brossard, proviseur à Metz avec Diane Berger. Une décision sur la Moselle pourrait donc intervenir dans le courant du week-end.
Une fin de semaine encore marquée par des températures glaciales, on vient de le voir avec Valérie. 16 départements toujours placés en vigilance orange pour neige, verglas et grand froid.
Plusieurs régions d'ailleurs ont déclenché leur plan d'urgence. Ces plans grand froid qui permettent d'ouvrir des places d'hébergement, elles sont parfois vitales. Écoutez ce reportage à Meaux de Nicolas Feldman.
J'ai une table pour que je puisse manger, un lit superposé. Un lavabo.
C'est une intimité sommaire, 10 mètres carrés, pas plus, et un radiateur, un refuge vital pour Pamela après une descente aux enfers.
Je travaillais dans un restaurant à Lille, j'étais bien, et avec le Covid, le patron il est obligé de virer tout le monde. J'ai plus rien du tout.
Alors qu'en dehors, comme hier, le thermomètre affiche 0 degré, Pamela réalise.
J'ai déjà dormi dans la rue, mais on ne peut pas lutter contre le froid. On ne dort pas, surtout une femme, elle ne dort pas dehors. Du coup, on est toujours obligé d'être sur nos gardes.
Pour Safia Agi, responsable de l'accueil de jour de l'association Equalis à Meaux, cette situation est loin d'être anodine. Mais avec le Covid, il a fallu revoir à la baisse le nombre de places.
On est sur une capacité d'accueil de 29. Aujourd'hui, nous l'avons limitée à 22 concernant la crise sanitaire. C'est lié au Covid puisque c'est relativement étroit au niveau du couloir, donc il faut vraiment une bonne circulation. 22 est le bon chiffre et on est quasiment complet tous les soirs.
La remontée des températures attendues lundi devrait marquer la fin du plan grand froid. La promesse pour Pamela, une nouvelle fois, d'appeler le 115 en quête d'un nouveau logement.
Les températures en début de semaine vont donc remonter, ce qui permettra également à tout le réseau de transport de se remettre en état de fonctionnement. La ligne de TGV Paris-La Rochelle est toujours coupée ce matin en raison du gel de certains rails. Un ancien étudiant de Sciences Po de Toulouse a été placé en garde à vue hier dans le cadre d'une enquête préliminaire pour viol. La parole se libère ces dernières semaines dans les instituts d'études politiques. Hier, les étudiants se sont mobilisés devant leurs établissements.
À Saint-Étienne, ce sont des femmes qui manifesteront cet après-midi, toutes employées d'une chaîne de restauration.
Elles dénoncent les t-shirts qu'elles sont obligées de porter pour servir les clients, des uniformes aux slogans dégradants, aux slogans à peine croyables même. Reportage de Jean-Luc Boujon.
Pour la direction, c'est simplement de l'humour. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces slogans ne font plus rire grand monde. Et surtout pas les salariées féminines des restaurants à viande Brut Butcher, obligées de porter, en guise de tenue de travail depuis 3 ans, ces t-shirts avec les mentions « à poil les dindes, il faut se la farcir » ou « un resto très cochon ». Sexiste, dénonce cette salariée qui vit mal les remarques déplacées des clients.
On avait des moqueries, on avait des messes basses. Au début, ça fait rire. Mais en fait, c'est avec le temps, ça en devient dégradant parce qu'on nous ressort toujours la même chose. Ah bah, je savais pas qu'il y avait cette option-là dans ce resto. C'est quel menu pour avoir à poil les dindes? Comment on fait pour se farcir la serveuse? À un moment, ça devient gênant et dégradant. Donc ok, ça peut faire rire certains, mais à la longue, ça nous saoule. Enfin, moi, ça m'a clairement saoulé.
C'est donc pour dénoncer cette pratique que certains salariés vont se rassembler tout à l'heure devant le restaurant de Saint-Étienne, une pratique dénoncée également par l'inspection du travail il y a plusieurs mois. La direction affirme aujourd'hui avoir compris le message et promet de remplacer au plus vite les t-shirts de la Discord par des polos noirs sans aucune inscription. Saint-Étienne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et en espérant que ces t-shirts d'un goût douteux ne seront pas revendus, les soldes d'hiver ont débuté le 20 janvier dernier. On sait déjà qu'ils seront prolongés.
15 jours supplémentaires jusqu'au 2 mars donc. C'était une demande des commerçants qui pâtissent du couvre-feu à 18h. Ils ont été entendus. Écoutez la satisfaction de Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants.
Nous sommes dans une phase sanitaire difficile. Il y a eu des baisses de chiffre d'affaires, 30-35% concernant les soldes 2021 hiver. Un peu plus de temps pour continuer à attirer les clients, c'est quand même une bonne chose. La prochaine étape, ce sera qu'on retrouve des opérations de printemps de centre-ville plus normales par rapport au commerce, que nous soyons dispensés du couvre-feu.
Francis Palombi de la Confédération des commerçants avec Laura Taouchanoff.
8h08, vous restez avec nous. C'est Europe 1, dans un instant, direction les États-Unis. Donald Trump pourrait être acquitté dès ce soir dans son procès en destitution.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
C'est la suite du journal de Marguerite Lefebvre. Aux États-Unis, les avocats de Donald Trump ont défendu l'ancien président cette nuit.
Donald Trump est jugé pour incitation à l'insurrection après l'invasion du Capitole par ses partisans le 6 janvier dernier. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Les avocats, tout à l'heure, ont démonté point par point l'acte d'accusation.
Oui, et ils sont allés vite, une plaidoirie de 3 heures seulement sur les 16 heures qui leur étaient accordées.
To claim that the president in any way wished,
prétendre que Donald Trump a souhaité, désiré ou encouragé la violence est un mensonge absurde et monstrueux, avance l'équipe d'avocats, car l'ancien président était celui de la loi et l'ordre.
We are the party of law and order.
Pour eux, les propos de Donald Trump sur le prétendu vol des élections sont protégés par le Premier Amendement et la liberté d'expression. La défense a également diffusé un montage vidéo pour montrer que les démocrates emploient eux aussi des métaphores guerrières dans leurs discours. Des vidéos sorties de leur contexte, mais qui permettent aux avocats de dénoncer un procès politique et guidé par la haine. Ce procès va bien au-delà du président Trump. Il vise à réduire au silence un discours que la majorité n'approuve pas, explique le chef de la défense de l'ancien président. Il vise à criminaliser les points de vue politiques. Les avocats espèrent ainsi conserver l'unité du camp républicain. Il faudrait que 17 sénateurs votent aux côtés de la totalité des démocrates pour condamner Donald Trump. Enfin, dans la soirée, le Sénat a rendu un hommage appuyé à l'officier Eugene Goodman, qui a protégé les élus lors de l'invasion du Capitole le 6 janvier.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le procès reprendra donc cet après-midi, heure française. On pourrait avoir un vote final dans la foulée.
Attention sur les routes. Pendant un an, on le reconnaîtra à son maillot arc-en-ciel. Julian Alaphilippe a repris la compétition cette semaine.
Après une pause cet hiver, le champion du monde de cyclisme est de retour. Il dispute le Tour de Provence jusqu'à demain. L'occasion de tester son immense popularité. Reportage d'Axel May.
On a vu le champion du monde, Julien Alaphilippe, qui reste...
Le speaker du Tour de Provence s'enflamme lorsque Julien Alaphilippe est aux avant-postes. Au bout de deux jours de course, le champion du monde s'est déjà fait remarquer. Une chute hier dans le final et jeudi, une échappée, reprise à 1,5 km de l'arrivée. Alaf, comme il est parfois surnommé, est là pour prendre du plaisir, courir à l'instinct, bref, faire du Alaphilippe.
Comme je l'ai dit avant le départ, je suis venu ici pour me tester, pour voir un petit peu où j'en suis, faire des efforts pour préparer la suite.
Car le Tour de Provence n'est pour le Français que la mise en bouche d'une première partie de saison qui doit l'emmener jusqu'à Liège, Bastogne-Liège en avril, si bien sûr la pandémie ne bouleverse pas une fois de plus le calendrier. En attendant, même si départ et arrivée se font à huis clos, le public peut profiter d'un peloton dans lequel figure un maillot irisé de champion du monde, Arnaud, cycliste amateur.
Ça fait du bien de prendre l'air surtout, de voir d'autres gens, de voir du monde s'amasser dans les montées avec des masques, mais c'est très très bien.
Aujourd'hui étape reine de ce Tour de Provence avec le Mont Ventoux, que Julien Alaphilippe n'a plus grimpé en compétition depuis le Tour de France 2016.
En tennis, la dernière Française en lice, Kristina Mladenovic, s'est inclinée cette nuit à Melbourne. Il n'y a donc plus aucun tricolore à l'Open d'Australie.
Grandiose, la vie que j'avais inventée.
Cette voix, c'est celle de Pomme, sacrée hier soir artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique. Sachez que chez les hommes, c'est Benjamin Biolay qui repart avec cette distinction, ainsi que le prix du meilleur album. Hervé et Iseult, eux, sont les révélations de l'année. Voilà pour la soirée des Victoires.
Enfin, 110 ans et pas une ruine. 110 ans que la radio s'est introduite chez vous.
On la célèbre un peu partout dans le monde aujourd'hui. En France, c'est une histoire qu'Europe 1 a contribué à écrire avec des moments historiques comme ce 12 juillet 1998. Eugène Saccomano est en direct du Stade de France.
La France est championne du monde.
Eugène Saccomano, donc le soir de la victoire des Bleus face au Brésil, c'était sur Europe 1.
Quel moment qu'on a, vous a fait vivre en 98, et à chaque fois qu'on réécoute ça, franchement, on a encore plein de frissons. Merci Marguerite, à tout à l'heure pour le dernier journal de cette matinale à 9h.